Summertime, George Gershwin, interprété ici par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong.
Spectaculaire, la comédie musicale Fame impressionne grâce à ses numéros de danse enlevant. C'est Bruno Lapointe qui signe la chronique, la critique de Fame. On connaît le titre, on connaît la chanson, mais les grandes lignes du récit, plusieurs les ignorent. Ce spectacle musical inspiré du film du même titre suit le quotidien d'une bande d'adolescents inscrits à la célèbre High School of Performing Arts de New York, une école de formation artistique aussi renommée que sélective. Oui, la trame narrative est particulièrement mince. Pourtant, Serge Postigo, qui signe à la fois la mise en scène, la traduction et l'adaptation de l'œuvre, a réussi le solide exploit de rendre sa relecture du récit original intéressante en élevant sa facture visuelle bien au-delà des attentes. Résultat, on a droit à un spectacle véritablement homogène plutôt qu'à un simple enchaînement de numéros musicaux. Évidemment, ce sont tout de même ses numéros musicaux qui font de son Fame une réussite. Rarement aura-t-on vu des chorégraphies aussi impressionnantes dans une comédie musicale québécoise. Le chorégraphe Steve Bolton, qui signait également les numéros de danse de Mary Poppins et Footloose, a visiblement élevé le niveau de qualité de plusieurs crans, surtout lorsqu'il marie le ballet classique et le hip-hop pour créer des numéros de haute voltige. Et la musique? Soyons francs, Fame ne dispose pas des nombreux verres d'oreilles qui permettent aux Footloose, Grease et autres Chicago de ce monde de capter instantanément et facilement l'attention des spectateurs. Non, on ne quittera pas la salle de spectacle en fredonnant les airs autres que la pièce-titre, mais on quittera tout de même la salle habitée par certaines performances vocales franchement impressionnantes entendues au cours de la soirée. À ce chapitre, on ne vantera jamais assez l'incroyable tour de chant qu'offre Marie-Denise Pelletier avec la pièce « Ce sont mes enfants », c'est le titre de la pièce. À 58 ans, la chanteuse n'a jamais été aussi en voix ni en contrôle de son instrument. Frissons, chair de poule et compagnie, tout y est. Bref, voilà une performance qu'on n'oubliera pas de sitôt. On se doit également de souligner celle de Gabrielle Fontaine qui brille dans le rôle de Serena Katz. Aussi efficace pour jouer la comédie que pour pousser la note, elle forme un duo particulièrement attachant avec Jordan Donohue, qui prête ici ses traits au personnage de Nick Piazza. En revanche, si Fame nous propose de grandes performances vocales, le spectacle nous en propose d'autres un peu moins glorieuses. La célébrissime chanson-titre, indubitablement le numéro musical le plus attendu de la soirée, s'avère au final légèrement décevante. Malgré toute sa fougue, la reprise livrée par Élisabeth Gauthier-Pelletier, alias Carmen Diaz, manque par moments de justesse et de précision. C'est également le cas du danseur belge June Box, l'interprète de Tyrone. Très à l'aise et efficace dans le rap, ses limitations vocales se font toutefois sentir lors de la chanson « Danser sur les trottoirs » où il doit pousser la note. Heureusement, le jeune homme parvient à éclipser entièrement ses lacunes grâce à ses aptitudes de danse tout simplement phénoménales. Mention spéciale également à Lisa Palmieri, un de nos plus grands coups de cœur de cette production. Même dans un rôle de second plan, elle parvient à voler la vedette à chacune de ses apparitions sur scène grâce à son charisme et son indéniable talent pour la comédie. On l'avait remarqué il y a 2 ans avec Mary Poppins, mais on la découvre encore davantage aujourd'hui. Et chose certaine, on continuera de la surveiller. La comédie musicale Fame est présentée jusqu'au 21 juillet au Théâtre Saint-Denis. Les participants aux 2 défilés de la fête nationale qui animeront Montréal ce dimanche 24 juin répétaient leur chorégraphie hier devant quelques spectateurs. Présentés sous le thème « La rencontre des vents », les 2 processions, le Nordais et le Sourois, s'élanceront dès 21h15 sur le boulevard de Maisonneuve, l'une à partir de la rue Peel et l'autre de la rue Saint-Denis pour se joindre sur la place des festivals. Et on se croise les doigts pour qu'il fasse beau. Art visuel, l'exploratrice des matières n'est plus. La sculptrice Louise Vigée a rendu l'âme au terme d'une carrière foisonnante. La prolifique sculptrice Louise Vigée n'est plus. Atteinte de 4 cancers, elle a rendu l'âme mardi à l'âge de 78 ans. Celle dont l'œuvre iconoclaste se démarque notamment par l'utilisation de matériaux inusités et la recherche de légèreté est saluée par ses pairs pour sa singularité, son engagement et sa générosité. L'artiste réputé a connu une carrière foisonnante parmi ses thèmes de prédilection, l'être humain et sa condition. Louise Vigée s'est d'abord intéressée à sa figure, puis à son revêtement. Au cours des dernières années, l'effacement et la disparition sont devenus centraux dans son œuvre. Depuis 1978, elle a réalisé plusieurs expositions individuelles au Québec, notamment au Musée d'art contemporain de Montréal et au Musée national des beaux-arts du Québec. Femme d'équipe, elle a collaboré à de nombreuses œuvres collectives, dont Seeing in Tongues, Le bout de la langue et Femme artiste du 20e siècle au Québec. Louise Vigée est également reconnue pour la quinzaine d'œuvres d'art public qu'elle a confectionnées. Parmi elles, Voix sans bruit, qu'on peut voir à la Grande Bibliothèque de Montréal, des lauriers pour mémoire conçus en hommage à Jean Duceppe et une architecture d'air installée à l'entrée de la Plaza Saint-Hubert. Récemment, elle avait créé la Traversée des Lucioles installée dans l'entrée du nouveau CHUM à Montréal. Ironie du sort, l'artiste a été appelée à revoir cette œuvre fréquemment au cours des derniers mois, puisqu'elle recevait des traitements de chimiothérapie dans cet hôpital. Louise Vigée a également été jury dans de nombreux concours d'art public. Elle était très impliquée dans son milieu, mentionne son ami, l'artiste Serge Murphy, qui la connaissait depuis 45 ans, à l'époque où ils étaient tous deux étudiants à l'Université Laval. Un autre ami, Charles Gilbert, également artiste, l'a qualifiée d'exploratrice des matières dans un texte hommage. Et pour cause, Louise Vigée s'est distinguée par son utilisation de matériaux inattendus tels que de la mousse de sécheuse et différentes formes de nourriture. Et pour terminer cette portion culturelle, le Festival de jazz sortira du quartier des spectacles l'an prochain. À partir de sa 40e année d'existence, l'an prochain, le Festival international de jazz de Montréal changera de formule. Son quartier général demeurera le quartier des spectacles, mais il se déploiera aussi dans un autre quartier de Montréal qui changera chaque année jusqu'en 2023. Un terrain vague de Verdun, de Rosemont, de Montréal-Nord. Le premier lieu qui accueillera des spectacles l'an prochain est à déterminer, ainsi que les autres à venir. Jacques-André Dupont, président de l'équipe Spectra, en a fait l'annonce hier sur le belvédère du Mont-Royal, lors d'une conférence de presse à laquelle a participé la mairesse Valérie Plante. Les cofondateurs du FIJM, Alain Simard et André Ménard, étaient aussi présents, de même que Jacques Primo, président du conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles. Les lieux de spectacle en marge du quartier des spectacles seront appelés hubs avec une scène et de l'animation.
J'ai passé l'été, le cœur sur la corde à linge et la tête au congélateur. Passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray et déjà dans le ciel une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. L'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés, et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grandes pelouses. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. Thank you. cœur à l'envers. Une autre fille de gaspiller, une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller, une autre saison.
L'été de Philippe B.
Libre dans la section débat opinion, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Mathieu nous le disait tantôt dans les éphémérides et je vais vous lire l'article, en fait le texte ou l'opinion de Isabelle Picard qui est ethnologue intitulé « Avec vous ». Le 21 juin, date du solstice d'été, se veut la Journée nationale des peuples autochtones telle que l'a décrété le gouvernement fédéral en 1996. Déjà en 1982, la Fraternité des Indiens du Canada, maintenant l'Assemblée des Premières Nations, demandait l'établissement d'un tel jour sans succès. Il aura fallu attendre 14 ans, alors que la Commission royale sur les peuples autochtones faisait de l'adoption d'une telle journée une de ses recommandations pour qu'elle voie le jour. Mais qui sont les peuples autochtones au juste? La réponse officielle énoncerait que la Constitution canadienne reconnaît trois groupes distincts, les Inuits, les Indiens, puisque c'est inscrit ainsi, allons-y, et le peuple métis. Louis Riel, ça vous dit quelque chose? Mais chaque fois que je réponds ça, j'ai un pincement au cœur. Encore une fois, c'est la couronne qui décide qui est autochtone et qui ne l'est pas. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas aux bandes de valider qui est membre de leur communauté ou pas. C'est le ministère des Affaires autochtones et du Nord qui tranche. Décolonisation, on passera. Bref, je m'éloigne. L'heure est à la fête, non? Si certains célèbrent la fierté d'être autochtones en cette journée nationale, un peu comme les Québécois le font à la Saint-Jean-Baptiste, pour d'autres, c'est le moment du bilan annuel. C'est mon cas. Chaque année, à cette date, j'analyse les avancées et les reculs que l'année a amenés. Je réfléchis aux relations que nous avons avec les gouvernements en place, avec les Québécois et les Canadiens. L'année 2017-2018 a été marquée par bien des beaux mots, de beaux espoirs, mais aussi de grandes déceptions qui fouettent l'âme. Les deux commissions mises en place respectivement par les gouvernements fédéral et provincial, à la suite des demandes répétées de différents leaders autochtones, soit l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, battent leur plein. Justin a fait un discours marquant et porteur d'espoir à l'ONU dans lequel il dénonçait la grande faillite du Canada vis-à-vis les Autochtones, pendant lequel je fredonnais « parole et parole » en espérant que cette fois soit la bonne. Puis il y eut le verdict de l'affaire Colton-Bushy qui ébranla une fois de plus la confiance des premiers peuples envers le système de justice actuel. Dernièrement, le gouvernement du Canada faisait l'acquisition de l'oléoduc Trans Mountain, projet grandement dénoncé par plusieurs Premières Nations au Canada, montrant son vrai visage aux yeux de plusieurs. Ensuite, il y a à peine un mois, le projet de loi C-262, lancé par le député Roméo Saganache, visant à assurer l'harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, était adopté en troisième lecture à la Chambre des communes. Un pas de géant, certainement digne de mention. Puis, il y a la catégorie des petits progrès, celles dont on parle peu, mais qui, quand on les additionne, produisent leur lot de changements positifs. D'abord, les initiatives issues des médias pour donner une voix aux Autochtones ont été nombreuses cette année. Radio-Canada embauchait un peu partout au Québec des stagiaires en journalisme, tous issus des premiers peuples, renforçant ainsi sa section espace autochtone et ouvrant la porte à la catégorie des oubliés. La Presse Plus ouvrait la porte à une collaboratrice autochtone dans sa section débat, une première pour un grand quotidien québécois, si je ne m'abuse. Natacha Canapé-Fontaine faisait une entrée fracassante dans la série Unité 9 sous les traits d'une Eyota Standing Bear bouleversante. On voyait les Samian, Stanley Volant, Michel Audette, Mélissa Mullen-Dupuis et d'autres encore sur les écrans et dans les émissions à grande écoute. La Ville de Montréal nommait une commissaire aux affaires autochtones une première. Plusieurs organisations créaient des programmes pour les Autochtones avec des Autochtones, s'intéressaient à la question, nous regardaient droit dans les yeux. Nous passions de l'invisible au visible, de l'ombre à la lumière et surtout, on écoutait ce qu'on avait à dire. Cette place, elle a été faite par des Québécois et des Canadiens qui se sont sentis concernés et qui ont voulu participer au mouvement à la hauteur de ce qui leur était possible de faire. Il est là le grand changement. Jamais un tel nombre d'organisations publiques, parapubliques ou privées n'ont autant requis les services de spécialistes des premiers peuples pour la formation de leur personnel sur le sujet autochtone. Les conférences et autres activités de sensibilisation offertes se sont également multipliées. C'est cette catégorie qui remporte la palme sans aucun doute cette année. Les changements dans les communautés sont plus difficiles à mesurer. D'abord parce qu'il y a 55 communautés autochtones au Québec, chacune avec des enjeux, des besoins et des réalités différents. Ensuite, parce que changer les choses prend du temps, surtout peut-être en communauté. Mais on avance aussi et mieux avec vous. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, il nous est enfin permis de rêver. À tout, à n'importe quoi, aussi parce que vous êtes là. Et croyez-moi, ça fait drôlement de bien. C'est donc l'opinion de Isabelle Picard, ethnologue en cette Journée nationale des peuples autochtones. Mathieu, aimez-vous le café glacé?
Mm-hmm.
Oui. Est-ce que vous avez un petit café à nous suggérer pour aller en prendre un bon?
Excusez-moi, non.
Non, mais ça aurait pu.
En fait, je l'ai fait maison. C'est pour ça que
faites maison.
En fait, ouais, je fais des mochas. On va aller chez vous. Glacés.
Oh, wow. Alors, dans le Journal de Montréal, je vous pose cette question, Mathieu, parce qu'on propose 5 endroits où boire les meilleurs cafés glacés à Montréal. Donc, on ira faire des tests. Premier endroit, c'est un article signé Mélodie Lamoureux. Croissant-Croissant, situé sur l'avenue du Mont-Royal-Est, le Croissant-Croissant est l'adresse chouchou des habitants du quartier quand vient le temps de boire un délicieux latte glacé. Si vous êtes intolérant au lactose, sachez que vous pouvez demander un latte au lait d'amande, au lait de noix de macadamia et même au lait d'avoine. Une belle adresse à découvrir cet été, 2270 avenue du Mont-Royal-Est. Campanelli, pour un bon café sur le pouce ou pour faire le plein de caféine dans un magnifique endroit, un arrêt au Campanelli s'impose. Situé dans le quartier Saint-Henri, ce charmant petit café italien offre également des viennoiseries et des sandwichs. Un bel endroit où se rafraîchir cet été, 4634 rue Notre-Dame-Ouest. Café Névé. La réputation du café Névé n'est plus à faire. Pour boire un bon café, été comme hiver, c'est la place où aller. Le service y est excellent et le café est toujours à la hauteur de nos attentes. Impossible d'être déçu par le café Névé et encore moins par ses cafés glacés. Café Névé, 51 rue Rachel-Est. Donc, on est rendu au quatrième endroit, la station W, pour prendre un bon café glacé. La station W est un arrêt obligé pour les amoureux de café. Le charmant établissement, désormais situé à Verdun et dans les Shop Angus, est un lieu de prédilection pour aller étudier ou feuilleter un magazine tranquillement. Leurs cafés glacés sont savoureux et vous pouvez même vous commander un bon déjeuner pour bien commencer la journée. Deux adresses, donc 3852 rue Wellington et 2600 rue William Tremblay, local 124. Et on termine avec Dispatch Coffee au Québec. Donc, si vous avez envie de vous balader sur le boulevard Saint-Laurent, café glacé à la main, vous devez absolument faire un arrêt au Dispatch Coffee situé au coin de l'avenue du Lutte. Vous pourrez y siroter de fabuleux cafés, mais aussi assister à des cours de dégustation de café gratuits. Suivez-les sur leur page Facebook pour savoir quand aura lieu la prochaine rencontre. 4021 Boulevard Saint-Laurent. Une journée magnifique, ciel bleu, température parfaite. Alors, j'espère que vous allez faire quelque chose de spécial en cette journée spéciale, solstice d'été. Vive l'été, je vous souhaite un été merveilleux, agréable et bonne journée. Donc, on se retrouve demain, ce sera la deuxième journée de l'été. Ici Hélène Denis, merci d'avoir été à l'écoute de Le Quotidien des Quotidiens. Merci Mathieu Tessier au choix musical et à la mise en onde. À demain.